Ariane Longla, bonjour.
Bonjour.
Tu as vécu au Caire il y a quelques années, tu vis actuellement à Beyrouth. Est-ce que tu penses que les événements qui viennent de se dérouler en Égypte étaient prévisibles ou est-ce qu'ils t'ont surpris comme ils ont surpris à peu près tout le monde ?
Non, c'était pour moi, c'était une grosse surprise, évidemment. On ne s'y attendait pas du tout. On en a toujours parlé lorsque je résidais en Égypte. On en a toujours, on a toujours évoqué ce rêve, mais qui restait à l'état d'un rêve et ça paraissait impossible pour la plupart des gens parce que la population était vraiment, verrouillée. Et puis l'époque, quand j'y vivais, c'est-à-dire il y a 6-7 ans, le gouvernement faisait en sorte que la population ait le minimum vital, à savoir que le prix du pain était accessible à tout le monde, les produits de base pour s'alimenter étaient rendus accessibles à chacun. Donc à l'époque, le gouvernement se débrouillait pour que la population n'ait pas de raison majeure de se révolter. Et ça a dû changer. Ces dernières années, Moubarak a dû lâcher un peu le pied. Et on ne s'y attendait pas du tout, mais effectivement, le peuple égyptien en a eu plus que ras-le-bol. Et l'exemple tunisien les a encouragés à suivre le pas.
Quelle est la situation à Beyrouth aujourd'hui ? Comment est-ce que les différents partis politiques et confessions à Beyrouth ressentent cette révolution égyptienne ?
Elle est très bien perçue par tout le monde. Je crois que ça... je pense que l'Égypte vient de se redorer le blason. Les Égyptiens ne jouissaient pas d'une image très très glorieuse dans le monde arabe parce que justement pays exploité, pays écrasé, que la plupart des Égyptiens qui sont au Liban sont bien souvent des ouvriers, des gens qui travaillent dans des stations essence, des gens qui sont exploités. Donc la vision de l'Égyptien moyen au Liban n'était pas très très glorieuse. Et là, on voit le comportement des Libanais se transformer. On les voit saluer les Égyptiens, les féliciter pour ce qu'ils viennent de réussir à faire. Et c'est plutôt joli à voir. C'est agréable de voir que justement le jugement est en train de changer.
Quel était pour toi le rôle des médias dans ces deux révolutions, si bien en Tunisie qu'en Égypte ? On a beaucoup et peut-être trop parlé de Facebook, mais qu'est-ce que tu penses, toi, des réseaux et de la manière dont ils ont pu influencer, jouer sur ce qui s'est passé en Tunisie et en Égypte ?
Ah bah écoute, là, c'est assez formidable parce que justement, ces réseaux sociaux comme Facebook, aujourd'hui, tout le monde, même les plus... même les personnes critiquaient ce type de réseau auparavant sont tous en train d'ouvrir des comptes sur Facebook là pour le coup. L'utilité de Facebook était complètement revue et auparavant on s'en servait sans doute plus pour chatter avec des copains ou pour se tenir au courant de l'activité culturelle du pays, tandis que maintenant c'est devenu un moyen de révolution politique, ce qui est énorme. Et en tout cas au Liban, je vois tout le monde ouvrir des comptes sur ce réseau-là. Ouais.
Ariane, tu es productrice de musique, tu travailles pour un label qui s'appelle Forward Music. Est-ce que pour toi, il y avait une chanson de cette révolution ? Est-ce qu'il y avait quelque chose dans l'air qui représentait, qui donnait le ton de cette révolution ?
Écoute, les artistes ont toujours été les premiers notamment dans ce qu'on produit nous à Forward, on produit des artistes un petit peu underground, donc les artistes ont toujours été les premiers à promouvoir, à soutenir, à encourager à une révolution. Je sais que Mustapha Saïd, qui est un des artistes sur lesquels, qui travaille avec nous sur le label, qui est donc un grand chanteur de soufi égyptien et un grand joueur de lutte, a fait un concert de 12 heures sur la place Tahrir en Égypte, au Caire, là, au moment des événements, qu'il veut faire un concert à Dubaï la semaine prochaine, qu'il tient à ouvrir justement par une chanson révolutionnaire à la gloire des événements égyptiens. Je pense que tous les artistes aujourd'hui vont être encouragés dans cette voie-là. Je suis certaine qu'on va entendre de plus en plus de titres qui vont célébrer justement ce qui se passe en ce moment dans le monde arabe. Mais dire qu'elle a été annoncée par les artistes ces derniers temps, non, je n'irai pas jusque-là, non.
Pour conclure cette interview, cette révolution ne va peut-être pas s'arrêter là, mais elle va peut-être contaminer d'autres pays dans cette région du monde. Par exemple, est-ce que tu penses que ce qui s'est passé en Égypte va faire bouger les lignes en Syrie ?
Ah, bien sûr. Bon, ça les fait déjà bouger partout dans la région. On voit tous les gouvernements dans la région, là, au Moyen-Orient, qui se préparent justement, qui essayent de... comment dire ? De canaliser tous les mouvements révolutionnaires qui pourraient naître en ce moment dans le monde arabe, Syrie y compris. On sait que en Jordanie, par exemple, le roi a changé tous les membres de son gouvernement en prévision justement d'une possible révolution. En Syrie, on sait qu'il y a des... comment dire... Il semblerait qu'on verse de l'argent, des indemnités aux populations de manière à les calmer dans l'idée que ça pourrait éventuellement craquer.
Eh ben, c'est pas fini.
Non, c'est pas fini du tout. Non, c'est que le début d'une grande partie d'histoire dans le monde arabe, là. Oui, tout à fait.
Merci beaucoup, Ariane Langlois.